VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 6 octobre 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Seboudia. Tout d'abord, les titres. Le capitaine Ibrahim Traoré, auteur du dernier coup d'État au Burkina Faso, a été officiellement désigné président du pays. Au Nigeria, libération des 23 derniers otages détenus depuis l'attaque d'un train dans le nord-ouest. Frontière fermée à Kasumbalesa, porte du sud de la RDC, après un accident et des tensions provoquées par un accident mortel. Le gouvernement d'Addis Abeba et les rebelles du Tigré acceptent une invitation de l'Union africaine à des pourparlers en Afrique du Sud. L'OPEP+ fâche les États-Unis, la Maison-Blanche, en décidant mercredi d'une coupe drastique des quotas de production. La Corée du Nord tire encore 2 missiles et blâme Séoul et Washington. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le capitaine Ibrahim Traoré, auteur du putsch de vendredi dernier à Ouagadougou, a officiellement été désigné mercredi président du Burkina Faso dans l'attente de la désignation d'un président de transition par des assises nationales. Le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, assure les fonctions de chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, selon une déclaration intitulée « Acte fondamental » qui complète la constitution du Burkina Faso, en attendant l'adoption d'une charte de la transition. Cette déclaration a été lue par le capitaine Kiswen Sida Farouk Azaria Sorgo, porte-parole du MPSR, la junte au pouvoir, lors d'une émission spéciale à la télévision nationale. Au Nigeria, libération des 23 derniers otages retenus par des hommes armés qui ont mené fin mars une attaque d'envergure contre un train dans le nord-ouest du pays. Notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Les autorités ont annoncé avoir obtenu la libération des 23 derniers passagers restés en otage. Dans un communiqué signé par Ousmane Youssouf, chef du comité d'action de l'état-major de la défense. Le 28 mars dernier, 8 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines enlevées lorsque des assaillants ont fait exploser une bombe sur la voie ferrée et ouvert le feu sur un train reliant Abuja, la capitale, à Kaduna. Jusqu'à présent, aucun groupe n'a revendiqué cette attaque. Début août, le président Muhammadu Buhari avait affirmé que 31 passagers étaient toujours retenus en otage, mais que l'usage de la force pour les libérer a été écarté. Et on ne sait toujours pas s'il y a eu paiement de rançon. Les ravisseurs ont réclamé dans plusieurs vidéos l'échange de certains de leurs commandants emprisonnés avec les otages. Ainsi, la sécurité est un danger majeur de la présidentielle prévue le 25 février prochain. Gilbert Tamba, Abuja pour VOA Afrique.
À la suite des tensions provoquées par un accident mortel, la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie a été fermée hier à Kasumbalesa, principal point de passage des camions de transport de minerais vers l'Afrique australe. Nanit Talani.
Des Congolais rapportent avoir été empêchés de traverser la frontière pour aller en Zambie. J'ai voulu aller comme d'habitude en Zambie pour faire des achats. Les camionneurs du côté de la Zambie ont refusé de nous laisser franchir la frontière. Ils nous ont jeté des pierres, affirme Jean-Luc Kayumba, un vendeur de Kasumbalesa. Il ajoute qu'il y a eu des échauffourées et la police zambienne a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser la foule, puis a fermé la frontière. Plusieurs Congolais affirment avoir été arrêtés à Kasumbalesa, un important poste frontière par lequel passent les camions transportant des minerais depuis la province du Haut-Katanga, dans le sud-est de la RDC. Un diplomate zambien a confié sous anonymat que la fermeture de la frontière est provisoire et que les autorités de Kinshasa et Lusaka discutent de la question. La tension est vive depuis le 29 septembre. Un chauffeur zambien avait tué une personne dans un accident de la route dans un village congolais. En représailles, des villageois ont brûlé vif le chauffeur incriminé.
L'épidémie d'Ebola en Ouganda a fait 29 morts, dont 4 agents de santé, a indiqué mercredi l'Organisation mondiale de la santé, inquiète en raison de l'inefficacité des vaccins face à la souche dite soudanaise du virus. Le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré se sont dit disposés hier à se rendre à des pourparlers en Afrique du Sud, à l'invitation de l'Union africaine, Michel Joseph.
Redouane Hussein, conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, a annoncé que le gouvernement a accepté l'invitation de l'Union africaine. De son côté, Debretsion Gebremichael, chef des rebelles tigréens, s'est dit prêt à envoyer des négociateurs tout en soulevant des questions sur les modalités des discussions. Selon une lettre envoyée aux deux parties par Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, ces pourparlers sont prévus ce week-end en Afrique du Sud pour tenter de mettre fin à presque 2 ans de conflit. La missive indique que ces discussions se feront sous l'égide de l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo, envoyé spécial de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, assisté de l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta et de l'ex-vice-présidente sud-africaine Phumzile. L'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique, Mike Hammer, est de retour dans la région depuis le 3 octobre. Selon le département d'État, il tente d'obtenir une cessation immédiate des hostilités et soutenir le lancement de pourparlers sous l'égide de l'Union africaine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'OPEP Plus a décidé hier d'une coupe drastique des quotas de production de pétrole pour soutenir les prix, s'attirant aussitôt les foudres de la Maison-Blanche qui ont accusé le cartel de s'aligner avec Moscou, Jacques Aristide.
Le président américain s'est dit déçu de cette décision à courte vue. Joe Biden a fait part d'une consultation prochaine du Congrès sur les outils et mécanismes supplémentaires permettant de réduire le contrôle du groupe de producteurs sur le marché de l'énergie. À bord de l'avion Air Force One, la porte-parole de la Maison-Blanche a enfoncé le clou. Il est clair qu'avec sa décision, l'alliance s'aligne avec la Russie. C'est une erreur, a déclaré Karine Jean-Pierre. De retour à Vienne, pour la première fois depuis mars 2020, les 13 membres de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, menée par l'Arabie Saoudite, et leurs 10 partenaires, conduits par la Russie, ont convenu d'une réduction de 2 millions de barils par jour pour le mois de novembre. Face aux critiques sur l'impact pour les consommateurs, le ministre saoudien de l'énergie, Abdelaziz Ben Salman, a avancé les incertitudes diverses planant sur l'économie mondiale. Bruno Jean-Richard Itoua, ministre congolais des hydrocarbures, a également défendu la volonté du groupe de producteurs de lutter contre la volatilité alimentée par des spéculations, dit-il.
La Corée du Nord a lancé ce jeudi 2 nouveaux missiles balistiques. Elle a qualifié ses essais d'armes de juste mesure de rétorsion contre Washington et Séoul et leurs exercices militaires dans la région, les accusant de provoquer une escalade des tensions militaires dans la péninsule coréenne. Les nouveaux tirs sont intervenus au moment où, à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait pour évoquer le lancement d'un autre missile nord-coréen qui avait survolé le Japon 2 jours plus tôt. Le président russe Vladimir Poutine a assuré mercredi que la situation militaire se stabilisera dans les territoires ukrainiens dont il revendique l'annexion, mais où ses forces subissent une série de revers face à l'armée ukrainienne. Quelques heures plus tôt, l'Ukraine avait annoncé regagner du terrain dans la région de Lugansk, dans l'Est, après ses succès dans celle de Kherson, dans le Sud, et Kharkiv, dans le Nord-Est. Au moins 15 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation de migrants au large de l'île de Lesbos, en Grèce, ont annoncé jeudi les gardes-côtes grecs. Auparavant, les autorités avaient fait état de dizaines de disparus après le naufrage d'une autre embarcation qui aurait transporté quelque 95 personnes au large de l'île de Citer, proche de la péninsule du Péloponnèse. Péloponnèse, du Péloponnèse. Une cour d'appel a jugé mercredi illégal un programme phare des années Obama protégeant les dreameuses arrivés clandestinement aux États-Unis lorsqu'ils étaient mineurs, une décision qui ne retire pas les droits des bénéficiaires actuels, soit quelque 600 000 jeunes. La Cour d'appel renvoie le jugement en première instance et notamment le soin d'étudier la nouvelle version forgée par l'administration Biden en août de ce programme baptisé DACA. Il s'agit aujourd'hui de l'Amérique qui s'unit derrière la Floride ravagée par l'ouragan Ian, a dit mercredi Joe Biden en visite sur les terres du gouverneur républicain Don Ron DeSantis, l'un de ses plus virulents opposants politiques. La Minute Éco, Eric Manirakidze.
Le président américain Joe Biden a vivement critiqué mercredi la baisse de 2 millions de barils par jour de production de pétrole annoncée par l'OPEP pour le mois de novembre. Cette décision pénalisera en premier lieu les pays à revenus faibles et moyens, a assuré l'exécutif américain. Pour tenter de parer à une potentielle hausse des cours, les États-Unis vont mettre sur le marché, le mois prochain, 10 millions de barils pris sur les réserves stratégiques de pétrole, poursuivant les prélèvements historiques décidés en mars, a fait savoir la Maison-Blanche. La start-up toulousaine avance dans son développement de son futur avion de transport électrique régional dont l'entrée en service est prévue en 2027. L'appareil sera équipé de 6 moteurs électriques fixés sur des ailes surélevées. Il permettra à l'aide de technologies modernes et digitales de transporter des passagers et du fret en toute sécurité avec un taux d'émission extrêmement faible et un modèle économique imbattable. L'entreprise totalise plus de 330 intentions de commande, signe selon elle de la pertinence de cet avion dans la mise en place d'une aviation décarbonée.
Merci Eric. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le ministre guinéen des Sports affirme que son pays va être prêt en 2025, même si l'accueil de la CAN lui a été retiré.
Oui, le ministre guinéen des Sports, Lansana Bea Diallo, le dit clairement. Même si son pays n'accueille plus la CAN 2025, la Guinée aura toutes les infrastructures prévues pour cette CAN et à la date indiquée.
Il y a juste une chose que je promets ici et que le président a promis, et que le premier ministre a promis au président de la CAF et aux membres de la CAF qui ont pris cette décision, que nous allons tout mettre en place pour mettre toutes les infrastructures effectivement qui vont permettre à ce pays de se développer et qu'on restera dans la programmation qu'on s'est fixée, c'est-à-dire 2025, et qu'en 2025, on sortira tous les stades, nos hôpitaux, nos aéroports, toutes nos infrastructures qui sont en lien avec cet objectif qu'on s'est fixé.
Lansana Bea Diallo, ministre guinéen des Sports, vendredi dernier, le président de la CAF s'est rendu à Conakry pour signifier aux autorités guinéennes le retrait de l'accueil du tournoi. Lors d'une conférence de presse samedi à Alger, Patrice Motsepe a indiqué qu'une dizaine de pays étaient intéressés pour remplacer la Guinée, parmi eux l'Algérie, qui a annoncé qu'elle sera candidate à l'organisation de la CAN 2025.
Suite hier des matchs de la troisième journée de la Ligue des champions en Europe.
Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech et Chelsea ont obtenu la victoire qu'ils recherchaient 3-0 face à l'AC Milan. Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez, buteur sur pénalty, a fait un grand pas vers le huitième de finale grâce à son succès face à Copenhague 5-0. Dans un stade de la Luz chauffé à blanc, le PSG a été bien secoué par le Benfica Lisbonne et a dû se contenter d'un match nul, un but partout. Le Real Madrid s'est imposé devant le Shakhtar Donetsk du Burkinabé Franck Lassina Traoré 2-1. La défaite de trop, Roulen Lopetegui a été limogé de son poste d'entraîneur du FC Séville après une nouvelle défaite 4-1 à domicile contre le Borussia Dortmund.
Abus dans le foot féminin américain, l'équipe de Portland licencie deux de ses dirigeants.
La franchise de Portland dit avoir démis de leurs fonctions le directeur sportif Gavin Wilkinson et le directeur commercial Mike Galoub après les révélations d'abus et agressions sexuelles systémiques dans le football féminin américain. Une enquête accuse Gavin Wilkinson d'avoir dissimulé les accusations d'abus sexuels formulées à l'encontre de l'ancien entraîneur de l'équipe féminine de Portland, Paul Riley. L'enquête a concerné plus de 200 joueuses de la Ligue nord-américaine de football féminin.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, le prix du carburant connaît une hausse depuis le 1er octobre dans les stations-service avec une conséquence immédiate, l'augmentation des tarifs dans les transports en commun appelés BACA. Un reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
À Adjamé Liberté, à la gare des Gwaka, le moyen de transport le plus emprunté par les Abidjanais, les chauffeurs confirment la hausse des tarifs.
On change jamais par l'autoroute rouge. Le plus le câblage augmente, bon, ça ne nous arrange pas. Forcément, nous devons augmenter le transport. Nous, on fait 300 francs à Moïsikrou. C'était 200, maintenant c'est 300.
Hausse confirmée par 7 passagères sur place.
Avant, on payait 200. Maintenant, on en paye 300 pour partir. On quitte Adjamé pour aller à Moïsikrou.
Mosikro est un quartier à la lisière des communes de Yopougon et d'Atekoubé où Joseph Amondji est chauffeur de taxi communal appelé Woro Woro.
Je suis transporteur de Woro dans la commune d'Atekoubé. Moi, je roule une voiture essence. C'est passé de 635 à 775. Atekoubé, pour l'instant, on n'a pas encore augmenté. C'est tout sur le même tarif là. À la gare Djamé, 200 francs. Atekoubé, Mosquée, 200 francs aussi.
Pourquoi il n'a pas augmenté ses tarifs malgré la hausse de l'essence?
La distance n'est pas assez longue que ça. Aussi. En augmentant, peut-être, ça va beaucoup à d'ici les passagers. Donc, nous avons maintenu le transport pour l'instant.
Confirmation faite par les passagers à bord.
Le prix est actuellement normal. C'est 100 francs, 200.
Garage 100 francs, en haut 200.
Dans la commune de Yopougon, à Ananeré-Oasis, à midi, à l'heure de pointe, Karine est dans la file d'attente des taxis communaux pour se rendre au quartier Lubafrique.
Avant, là, on a la possibilité de faire les arrangements, de prendre un taxi 200 francs pour aller à tel endroit. Mais maintenant, là, c'est un peu difficile. Quand tu dis j'ai 200, ils disent non.
300.
Pour eux, le prix du carburant a augmenté. Donc, ils ne veulent même pas diminuer.
Le gouvernement ivoirien avait rencontré les associations des consommateurs pour expliquer les raisons de cet ajustement des 6% sur les prix du carburant. Delphine Boise, Abidjan, VOA, Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, un appel au boycott des activités liées aux festivités de la Journée mondiale de l'enseignant, ce 5 octobre, a été lancé sous une initiative conjointe du mouvement « On a trop supporté », du collectif « On a trop attendu » et du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique. Tous s'insurgent contre les difficiles conditions de travail des enseignants et la lenteur du gouvernement dans la satisfaction de leurs doléances. Emmanuel Julntap.
Dans la plupart des établissements publics de Yaoundé, l'appel au boycott de la Journée mondiale de l'enseignant a été peu suivi. On redoute les représailles de la hiérarchie. Confie sous anonymat un enseignant de mathématiques d'un lycée de la capitale. Mais pour Bill Tchagé, membre du bureau directeur du mouvement On a trop supporté, les revendications poursuivent une cause commune.
Si aujourd'hui le statut particulier de l'enseignant est révisé et mis en application, cela va réjouir toute la corporation, même nos chefs d'établissement qui nous mettent les bâtons dans les roues. N'oublions pas aussi, il y a les actes de carrière aussi, ça concerne tous les enseignants.
La colère des enseignants date bien avant la journée mondiale qui leur est consacrée. Depuis le mois d'avril dernier et lors de la rentrée scolaire de septembre, ils ont initié l'opération Craie morte. Cet enseignant gréviste dit être toujours dans le désarroi.
Nous demandons qu'au niveau du MINESEC, qu'on nous affirme que l'automatisation des actes de carrière prendra encore dès à présent. Le paiement total de la dette, c'est-à-dire 181 milliards, représentant ici là les rappels, les prises en solde et les avancements.
Mais le malaise de certains enseignants au Cameroun va parfois bien au-delà des conditions salariales et de la gestion de leur carrière. Cette enseignante, dont nous taisons le nom, doit dispenser 18 heures de cours en deux jours. Elle réside à Douala et travaille à 120 km de la capitale économique.
Vraiment pas facile du tout. Pour y arriver, c'est minimum 3h30. Ce qui n'est du tout pas facile, surtout que les conditions de voyage sont très difficiles. Je quitte Douala le dimanche dans l'après-midi pour donner cours le lendemain à 7h30 et pour rentrer chez moi mardi soir après la deuxième journée de cours.
Le ministre de l'Éducation de base, dont l'ordre d'enseignement est aussi concerné par des revendications, pense que le gouvernement a fourni des efforts pour apaiser la colère des enseignants. Professeur Laurent Serge Etoundingwa.
Le chef de l'État a pris des mesures qui ont adressé les problèmes les plus réalistes. C'était des éléments de solde qui sont le droit de chaque fonctionnaire. Les autres revendications ne peuvent pas laisser indifférent tout le corps des autres fonctionnaires de l'État. Et cela demande que, corrélativement à l'activité économique et à sa production, les réunions soient tenues pour être sûres que nous pouvons être capables d'adresser les nouvelles augmentations financières qui ont un coût assez difficile.
L'intersyndicale de l'éducation, qui regroupe une dizaine d'enseignants, a pour sa part lancé un nouveau mot d'ordre de grève durant les mois d'octobre, novembre et décembre prochains. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Arrivé il y a 4 mois à la tête de la Cour constitutionnelle, l'organe censé juger le contentieux électoral en République démocratique du Congo, le président de cette haute cour est en visite aux États-Unis, où il a échangé avec certaines personnalités et organisations d'appui à la démocratie en prélude aux prochaines élections en RDC qui devraient se tenir l'année prochaine. Au micro de Marius Muhunga, le président de la Cour constitutionnelle de la RDC, Dieudonné Kamuleta.
Nous sommes venus faire en sorte que nous soyons en contact avec différentes institutions qui concourent à la formation, à la recherche de tout ce qui peut être ou amener à la bonne tenue de la justice, même à la préparation des acteurs judiciaires à faire face à la bonne tenue des élections.
Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pensent, chez les Congolais, qu'il vous sera difficile, vous, d'être impartial par rapport aux prochaines élections, parce que beaucoup pensent que vous êtes proche de l'actuel président de la République?
Le problème qui tue notre pays, même l'Afrique, ce sont des préjugés. Sous d'autres cieux, on juge quelqu'un par ce qu'il a fait. Mais il serait peut-être un peu regrettable qu'on te juge juste par ta taille, par ta chemise, par ton appartenance provinciale ethnique. Or, ces choses-là, nous ne les choisissons pas. Je suis arrivé à la Cour des cassations en 2018. Donc, c'est-à-dire que j'étais déjà au magistrat. En ce moment-là, l'actuel chef de l'État n'est pas chef de l'État. Donc, ce n'est pas lui qui m'a amené à la haute magistrature. De deux, le simple fait d'être magistrat m'a habitué à être à l'aise devant les tensions. Toute ma vie, j'ai appris à trancher. Toute ma vie, j'ai appris à savoir une chose. Quand on tranche et qu'il y a deux parties, c'est lui qui a perdu. Vaut mieux qu'il soit de bonne foi pour reconnaître. Mais très souvent, personne n'est de bonne foi. Mais ce qui importe pour celui qui tranche, ce n'est pas ce que l'autre dit, mais c'est ce que sa conscience dit. Parce qu'on peut mentir à tout, sauf à sa propre conscience. Le chef de l'État, je le connais en tant qu'institution. Je ne l'ai pas connu en tant que citoyen du pays, en tant que personne physique.
Il y a des Congolais qui pensent que, telles que les choses se font, les élections ne pourront peut-être pas être organisées dans le délai. Si cela arrivait, est-ce que ce serait inconstitutionnel ou il y aura une jurisprudence, parce qu'il y a eu un président de la République, Joseph Kabila, qui est allé au-delà du mandat constitutionnel?
La Cour constitutionnelle est là pour faire respecter la Constitution. Et je peux vous garantir que rien de ce qui ne rentre pas dans ce qui est prévu ne peut être toléré. Ça, au moins, c'est une conviction que j'ai.
Si nous devons nous inspirer des autres pays, comme la République centrafricaine ou encore le Kenya, où dernièrement, par exemple, les juges de la Cour constitutionnelle ont rejeté des décrets du président de la République qui voulait changer ou créer une nouvelle constitution. Est-ce que vous pensez que dans votre pays, la République démocratique du Congo, ce genre de scénarios sont possibles?
C'est comme si vous pensiez que le Congolais est condamné à être dans la médiocrité. Deuxièmement, c'est comme si la justice congolaise ou le magistrat congolais, c'est un sous-homme qui ne peut même pas mettre en exergue la science ou l'indépendance dont il fait montre.
On n'a jamais vu la Cour constitutionnelle de la RDC aller à l'encontre de ceux qui sont au pouvoir.
Peut-être qu'il y a certaines décisions qui sont prises, qui ne sont pas communiquées. L'autre aspect, c'est que ce qui s'est fait dans le passé, puis-je parler de cela? Étais-je là? Mais en tant que juge, je sais que le magistrat congolais, à maintes reprises, a montré réellement qu'il était indépendant.
Le président de la Cour constitutionnelle de la RDC, Dieudonné Kamouleta. RDC toujours, la conférence préparatoire de la COP27 s'est clôturée ce mercredi à Kinshasa. Plus de 60 ministres de l'environnement de différents pays ont travaillé sur les questions à discuter lors de la COP27 en Égypte. En novembre prochain, lors de ces assises, les États-Unis ont promis de donner plus d'argent pour protéger l'environnement. De leur côté, trois pays, l'Indonésie, la RDC et le Brésil, ont annoncé travailler ensemble pour maintenir la pression sur les pays pollueurs. De Kinshasa, notre correspondant Alex Kati Kataï.
Cette pré-COP de Kinshasa a permis aux trois pays détenteurs des forêts denses de se mettre ensemble. Le Brésil, l'Indonésie et la RDC ont indiqué travailler sur un accord tripartite pour unifier leur stratégie sur les questions climatiques. Eve Bazaïba, vice-première ministre et ministre de l'Environnement de la RDC, a déclaré que cette union en vue permettra de faire pression sur les pays pollueurs.
Compte tenu de l'environnement que nous partageons géographiquement ensemble, nous sommes sur la même ligne par rapport à la végétation, à nos forêts tropicales humides. Aujourd'hui, nous sommes juste en train de continuer la consolidation de notre travail. Nous pensons qu'il y aura la conclusion en termes d'un accord concret avec programmation. Ça peut se faire soit avant ou pendant la COP27.
L'un des plus grands pollueurs, les États-Unis, ont annoncé qu'ils vont allouer 12 milliards de dollars aux pays moins pollueurs et pour la lutte contre le réchauffement climatique. John Kerry, envoyé spécial des États-Unis pour le climat, a affirmé que 3 milliards de dollars sont déjà alignés dans le budget de cette année.
President Biden has announced a major initiative for adaptation and building resilience.
Le président Biden a annoncé un plan ambitieux et résilient pour faire face à la situation. Il a proposé 12 milliards de dollars sur 5 ans et 3 milliards sont déjà dans le budget de cette année. De plus, nous travaillons sur un mécanisme financier pour aider à lever des milliards de dollars dans des domaines où les gens préfèrent investir, mais ils ont besoin de créer des projets commerciaux solides.
Dans une conférence de presse tenue mardi à Kinshasa, John Kerry avait déclaré que les États-Unis demanderont à l'RDC de ne pas exploiter certains des blocs pétroliers parmi la dizaine publiée dernièrement. Selon M. Kerry, ceci permettrait de protéger nos forêts. Une déclaration que n'apprécie pas les juristes et analystes politiques congolais César Mpoy.
Les premiers pollueurs du monde ne peuvent pas aujourd'hui donner une leçon en cette matière à la RDC. Moi, je pense que ces propos sont malvenus. Les États-Unis ne peuvent pas empêcher la RDC de jouir des ressources de son sous-sol en arguant qu'il faut respecter l'environnement. Ça n'a aucun sens. La RDC devra s'assumer, exploiter ses blocs pétroliers, tout en respectant, comme le chef de l'État l'a rappelé, les normes environnementales.
Ces assises qui se sont clôturées ce mercredi étaient la préparation de la conférence sur le climat COP27 qui se tiendra du 1er au 18 novembre prochain en Égypte. Le thème choisi est « Unir le monde à la cause du climat ». Alex Katikataï, Kinshasa, VOA Afrique.
C'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.